Allô? Allô?
Mais
ils ne répondent pas?
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre ce tout nouveau numéro des paroles aux auditeurs de ce mois de juillet 2021. La République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2021, 61 ans de son accession à l'indépendance. Depuis plus de 4 décennies, le pays a adopté le concept des soins de santé primaire pour assurer l'accès aux soins et la couverture de santé universelle. 61 ans après, quel bilan faire de l'accès aux soins de santé en RDC et quelles devraient être les priorités pour améliorer ces secteur. 081-890-4969 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis à nom de Sylvain Matondo et Kyria Ambatia est à la réalisation. Et quant à moi, Pierrot et la Magie, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et nous poursuivons avec notre série d'émissions consacrées à la célébration des 61 ans d'indépendance de la RDC. Aujourd'hui, c'est le secteur de la santé qui est au centre de nos échanges. Et pour en parler, nous avons associé dans ce studio le professeur Gilbert Sibangou. Professeur, bonjour.
Bonjour,
Pierrot. Merci d'avoir
Bonjour aux auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'initiateur et directeur général de ResMed+. Commençons par là. C'est quoi ResMed+?
La ResMed+, c'est une structure sanitaire qui s'occupe de personnes du bel âge, donc 65 ans et plus. Nous faisons l'hébergement, la restauration, la lingerie, les divertissements et principalement la surveillance médicale avec un corps médical de professionnels 24 heures sur 24. Et nous sommes à Bentieke Cimetière où nous avons une trentaine de chambres individualisé, c'est-à-dire vous ne trouvez pas deux patients dans une chambre, jamais. Et nous avons une clinique d'urgence pour les gens des environs qui peuvent venir se faire soigner chez nous, parce que pour trouver une structure sanitaire viable, il faut faire 5 kilomètres à partant de chez nous. Et ces gens-là sont heureux d'avoir leur clinique d'urgence.
Et pourquoi avoir choisi les personnes de ce que vous appelez bel âge?
J'ai choisi parce que moi-même, j'ai eu à vivre une expérience par ma maman, qui était dans un centre d'hébergement au Canada, et j'ai dit qu'on pouvait aussi faire quelque chose comme ça ici chez nous, et cibler le même personne. Et c'est comme ça que, avec détermination, je suis arrivé, j'ai commencé et j'ai réalisé ce que vous voyez là.
Alors, revenons maintenant à notre sujet, 61 ans après. En grande ligne, que pensez-vous de notre système de santé?
Notre système de santé était enviable. Vous vous rappelez bien, vers les années 70, les mondes venaient se faire soigner ici. On avait des structures sanitaires très, très viables. Et avec le temps, ça s'est détérioré et on n'a pas pensé renouveler. Et les privés ont pris l'initiative de créer leur centre. Ce qui fait que ça pullule et ça devient du business. On fait le business sur le malade. Et on fixe le coût à payer sans tenir compte de quoi que ce soit, parce qu'on a besoin de faire de l'argent. Donc l'État a abandonné ce secteur pour s'occuper d'autres choses. Donc si vous regardez bien, il y a aussi des universités qui n'ont pas facilité la tâche pour améliorer notre système de santé. On a créé des universités dans tous les villages, où vous trouvez même pas de professeurs dignes qui donnent cours. Il n'y a même pas de centre de santé où ces étudiants peuvent faire leurs pratiques. Il y a des hôpitaux où il n'y a même pas de lits. Même pas le papier duplicateur pour écrire. Alors, tout ça ont contribué, tous ces éléments ont contribué à la défaillance de notre système sanitaire.
Est-ce que le problème réside à quel niveau? L'absence de l'expertise pour mettre en place des politiques publiques cohérentes, ou c'est un problème d'avoir abandonné le système, la définition de notre système de santé entre les mains plus des partenaires?
Non, il y a d'abord le problème de nous-mêmes en tant qu'acteurs. Mm-hmm. C'est-à-dire, tous les gouvernants, pendant plus de moins 20, 25 ans, tous les gouvernants étaient absents. Ils n'ont pas vraiment été présents quand il fallait. Mm-hmm. Et c'est comme ça que la faute incombe aux gouvernants. C'est non pas seulement Kinshasa. Mmh. Kinshasa, c'est la capitale, c'est vrai. Mais Kinshasa, c'est pas le Congo. Quand vous allez dans le plus profond de notre pays, vous pleurez. Vous savez qu'il y a encore des coins où on transporte des morts sur des vélos.
Oui.
Où on transporte des malades sur des tipis pour les amener dans un, dans les soi-disant centres. Mmh. Donc l'État a été défaillant. Mmh. La responsabilité incombe aux dirigeants.
Alors, est-ce que l'absence des dirigeants est due à quoi? C'est un problème de désintéressement, c'est un problème de l'expertise, mais c'est quoi exactement le problème? Alors qu'il y a de plus en plus, le système bénéficie des cadres supérieurs formés dans de meilleures écoles, dans de meilleures universités.
Ouais, le problème, c'est beaucoup plus le manque de leadership.
Absence de leadership.
Absence de leadership. Parce que, pendant 25 ans, comment on a pu laisser des universités naître sans vraiment des professeurs chargés de donner des cours, sans hôpitaux pour faire des stages à ces jeunes médecins, mmh. et on leur donne des diplômes pendant 25 ans. Alors, comment voulez-vous que la suite soit bonne? La conséquence directe, c'est les manques de soins, mm-hmm. c'est l'abandon, c'est le business qui se crée autour de tout ça, parce que le jeune médecin, il se promène partout avec sa blouse pour aller soigner, là où on peut lui donner un peu d'argent, ainsi de suite. Mais c'est dans tous les secteurs qu'il y a régression inimaginable.
Mm-hmm. Alors, partant de ce diagnostic, le débat, il est vraiment intéressant parce que je vois encore beaucoup d'auditeurs sur notre standard. Mais alors, partant de ces diagnostics, quelles devraient être aujourd'hui les priorités des gouvernants pour améliorer notre secteur de santé?
Il faut repenser la politique sanitaire. Mm-hmm. Il faut responsabiliser des hommes. Il faut améliorer les structures sanitaires. Faire une sélection de médecins. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de jeunes médecins qui attendent le numéro matricule. Pour la plupart, ils ont fini dans des universités où on peut fermer tout de suite. Alors, ils demandent le numéro matricule. Tout ça, il faut repenser. Et pour repenser, ça demande qu'il y ait une prise de conscience des dirigeants.
Et mais quand on regarde notre système de santé aujourd'hui, les dirigeants ne sont pas seuls, ils sont accompagnés par des partenaires extérieurs, des grandes structures qui les accompagnent, que ce soit dans l'élaboration de la politique, que ce soit dans différents domaines, qu'il soit des médicaments, qu'il soit de la vaccination, ils sont toujours accompagnés d'une expertise, on peut les dire ainsi.
Oui, c'est vrai. Mais Pierrot, vous savez, il ne faut pas beaucoup se pencher sur le partenaire extérieur. Mmh. Nous avons une expertise locale très, très professionnels. Mm-hmm. Des gens qui peuvent aider. C'est vrai, le partenaire extérieur peut venir en complément, mais il faut d'abord responsabiliser des Congolais. Mm-hmm. Il y en a qui peuvent aider à repenser la politique sanitaire. Donc, vouloir seulement prioriser l'apport extérieur par rapport à l'apport local, c'est une erreur, bien. Mm-hmm.
Voilà.
Je suis pas partisan de ça, moi.
Voilà, professeur, nous allons revenir à vous. Il y a beaucoup d'auditeurs sur notre standard. Je rappelle encore que l'émission est consacrée au secteur de la santé, ça soit un an après. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Nous recevons le professeur Gilbert Sibangou, initiateur directeur général de ResMed Plus, une structure qui s'occupe plus de personnes que nous appelons des troisième âge, ça soit 5 ans jusqu'au-dessus, pour leur donner des soins. Et vous aussi, vous êtes nombreux comme héritiers qui nous appellent de Kisangani. Héritier, merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne fête de l'indépendance à tous les patriotes congolais qui me suivent dans les pays et à l'étranger.
On vous écoute,
à tout
part, héritier, oui.
Le professeur m'a arraché le vocabulaire lorsqu'il parle de la politique d'absence politique sanitaire depuis la question du pays à l'indépendance. En tout cas, je lui donne raison. Pourquoi? Parce que témoigne. On n'a jamais vu nos autorités se faire soigner dans les pays. Ils partent toujours ailleurs. Pourquoi? Je prends l'exemple de Moïse Katumbi. Lorsqu'il était malade, il est allé se faire soigner en Afrique du Sud, depuis, à partir de l'Afrique du Sud, et il a fait l'Europe. Et même le fait, Étienne Tshisekedi, qui était malade, Étienne est décédé en dehors du pays. Pourquoi nos autorités partent de se faire soigner ailleurs? Parce qu'ils sont conscients que nous n'avons pas de structures sanitaires dignes du nom. Et allez voir nos hôpitaux ici, les hôpitaux généraux ici, par exemple, à Kisangani. Vous allez voir l'hôpital qui est trop sale. Vous arrivez comme ça, comme patient, c'est d'abord les saletés qui vous amènent à la maladie. Et aussi, le personnel. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on tient compte de l'argent, mais on ne sauve pas. Pendant que le serment d'Hippocrate ne dit pas ça. Et nous avons un système sanitaire malade. Comme solution, moi, je pense qu'il fallait repasser ce système. Ce que nos autorités voient ailleurs doivent nous amener ici au Congo. Construire des hôpitaux dignes de nom et aussi amener les équipements qu'on utilise ailleurs, ici chez nous au Congo, et aussi former ce personnel qui va manipuler ces équipements. Ça va booster alors l'accès aux soins de santé, parce que c'est l'un des indicateurs du développement. Lorsque les gens n'accèdent pas aux soins de santé de qualité, en tout cas, on ne peut pas parler de développement. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup, héritier. Vous avez dit, au-delà de tout, en regardant ces tableaux, il faut carrément repenser la politique sanitaire. Benjamin, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Mégie. Bonjour au professeur. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Benjamin.
Merci beaucoup, cher Pierrot, pour l'octroi de la parole. Moi, je pense que 61 ans après l'indépendance, le bilan est négatif. Et le système sanitaire, monsieur Pierrot, est vraiment au rabais. Rappelez-vous qu'avant que la RDC accède à sa souveraineté nationale et internationale, il y a certains pays qui venaient même se procurer une prise en charge sanitaire chez nous ici. Mais aujourd'hui, monsieur Pierrot, vous allez vous rendre compte que c'est nous, Congolais, étant donné que notre système sanitaire n'est pas bon, aujourd'hui, nous quittons la RDC pour aller nous procurer les soins médicaux à l'étranger. Moi, je pense que c'est le type d'homme qui nous manque ici au Congo, comme l'a dit l'invité tout à l'heure là. Et je m'en vais vous dire qu'il y a quelques facteurs qui expliquent cette situation, ce qui fait que le système sanitaire ne puisse pas décoller au pays de ses bureaux. Le premier facteur, c'est d'abord l'État lui-même. Aujourd'hui, l'État est devenu incapable de construire les hôpitaux. Monsieur Pierrot, j'ai un témoignage. L'année passée, j'étais dans le village de Kabemba. Kabemba, c'est à 11 km de Kankou, dans les territoires de Lubokasai. Vous allez voir que tout est un grand village comme celui-là qui n'a qu'un seul hôpital public. Et combien de médecins affectés? Un seul médecin. Vous voyez ce que ça fait? Et maintenant, quand les gens tombent malades, parfois, ils sont abandonnés à l'hôpital au cas où le médecin là n'est pas présent. C'est un problème. Et le deuxième facteur, comme je viens de le dire là, c'est l'effectif faible des médecins qui sont affectés dans les hôpitaux. C'est un facteur, M. Pierrot. Aujourd'hui, la formation de nos médecins est mise en cause. Certains médecins ont du mal à accéder au numéro d'ordre des médecins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les universités comme des chenilles, naissent comme des chenilles, et on y met même les facultés de médecine avec l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire sans descendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et maintenant, imaginez-vous, les étudiants qui sont formés en brousse, il n'y a pas même de bibliothèque, quelqu'un qui termine à l'université ou au village en médecine, il n'a pas fait même un stage. Et moi, je me demande, on est en train de former quel type d'homme pour ces pays? Et moi, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on aura formé des criminels qui seront en train de tuer ces pays, M. Pierrot. Et autre chose, vous allez voir que nos universités aujourd'hui ne produisent que le médecin généraliste. Il n'y a pas même des spécialistes. Quelqu'un qui a un problème d'œil aujourd'hui, il faut l'évacuer à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des médecins généralistes. Et même ces médecins-là, juste quand ils terminent, ils ne sont pas engagés par l'État congolais. Ils vont entrer dans la politique. Quelqu'un qui a fait la médecine, il abandonne son métier, il va dans la politique. Et c'est la population qui est en train de souffrir. Moi, je pense que l'État que nous avons, étant incapable, devrait revenir à la raison pour voir que vraiment le peuple congolais souffre. Aujourd'hui, il y a la misère qui frappe le pays. Mais quand bien même nous avons des problèmes sanitaires et qu'il n'y a pas même des médecins, il n'y a pas de spécialistes qui peuvent nous encadrer, c'est un véritable problème. Autre chose, récemment, vous avez vu le grève en répétition à travers tous les pays. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas pu mettre tous les moyens possibles pour prendre le médecin et les infirmiers en charge. Et c'est ça le problème sérieux, monsieur.
Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, Benjamin, vous avez, en même temps que vous posez les diagnostics, derrière votre diagnostic, il y a aussi la solution. Cela veut dire, on ne peut pas avoir des bons médecins si on n'a pas une bonne formation, on ne peut pas avoir des bons hôpitaux si ils ne sont pas construits, s'ils ne sont pas équipés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente la présence de l'État dans le système de santé avec une vision de pouvoir l'améliorer. Merci beaucoup, Benjamin Franck. Vous nous appelez de Vienne. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Franck.
Bonjour notre ami Pierrot, bonne fête d'indépendance à tous les compatriotes congolais, bonjour à l'invité et aussi nos cordiales salutations à tous vos collègues au studio.
On vous écoute Franck, oui.
Oui, merci beaucoup pour la parole. J'étais en train de suivre l'invité, je vais le compléter par ceci. Nous devons commencer par rappeler que les ressources humaines constituent le tout premier facteur du vrai développement. Car il n'y a aucun développement sans personne, sans citoyen. Et 61 ans après l'indépendance, le bilan sur beaucoup d'aspects de vie reste encore mitigé. Mm-hmm. 61 ans après, nous ne pouvons plus nous voiler de face pour attester notre part de responsabilité dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Et la solution à cette situation se trouve dans le mental. Et la santé pour tous les citoyens du monde est le bien par excellence et le plus grand bien. Et chez nous, en République démocratique du Congo, il y a même un accès, l'article 47 de la Constitution qui parle de l'accès à une santé décente. Donc, tout cela nous est reconnu par la Constitution. Et en guise d'une brève comparaison avec ce qui se passe ailleurs dans des pays organisés, la politique sociale constitue un paquet relationnel. Donc, dans ce paquet, il y a une corrélation proportionnée entre la politique sanitaire, la politique du travail et la politique du logement. Et à ce niveau, on trouve comme dénominateur commun le SMIC, un minimum salarial que chaque citoyen qui travaille doit gagner à la fin du mois afin que cela lui permette payer les factures de base, il y a les loyers, il y a son assurance maladie, avoir de quoi s'approvisionner et sans lui priver de la capacité de s'acquitter d'autres charges comme l'énergie, chauffage, transport et ainsi de suite. Là où je travaille, moi par exemple, si je peux parler de mon cas, par rapport à ce que je dois gagner à la fin du mois, on me soutire 7%. Et le 7% qu'on me soutire est versé à mon assureur, si bien que quand j'ai besoin de me faire consulter, quand j'ai besoin de faire un checking, je vais seulement voir le médecin et par rapport à ce que je paye, il y a déjà des charges que l'assureur me garantisse et ça fonctionne comme ça dans des pays organisés. Mais seulement chez nous, il y a d'abord des articles de la Constitution qui sont obsolètes, ils sont là sans qu'on les applique. Il y a par exemple l'article 36. Il parle de la sacralité du travail et des devoirs du travail par rapport à tout citoyen. Donc, je crois que le problème qui se pose chez nous, c'est d'abord un problème de l'absence d'une politique sociale. Il n'y a pas de politique sociale, les politiques d'emploi n'existent pas, la politique sanitaire inexistante, la politique salariale n'existe pas, et l'absence de la politique sociale pose autant de problèmes. Et tant que cela ne sera pas repensé, on n'ira pas très loin. Et si nous devons encore revoir la cartographie de notre pays, je ne vais pas peut-être parler par rapport à toutes les provinces, je prends seulement comme échantillon la province du Grand Bandunda, selon son ancienne configuration, on aura de la peine pour me dire que à part les hôpitaux nous laissés par les colons, l'État congolais de nos jours a encore construit même deux hôpitaux de référence et qui sont équipés. À la ville de Bandundu, par exemple, pour le moment, ils ont, je crois, 7 à 8 établissements sanitaires. Mais sur ce nombre-là, l'État congolais n'a qu'un seul. Les autres, là, sont des hôpitaux de confession religieuse, des privés et ainsi de suite. Si je vais à Kikwit, je peux encore voir, il y a peut-être deux, trois de l'État congolais, mais les autres établissements sanitaires appartiennent aux confessions religieuses ou aux privés. Et nous avons là un problème de la conception politique. Faire de la politique, c'est arriver à servir la collectivité. Mais seulement chez nous, il y a des contradictions. Ceux qui devaient servir la collectivité, quand ils sont malades, les amis viennent de l'évoquer, ils vont aller se faire soigner ailleurs. Leurs enfants, ils les envoient aux études ailleurs. Mais sur place, au lieu de travailler pour promouvoir la vie des citoyens, non, ils doivent se servir, prendre l'argent de l'État pour aller investir ailleurs. Et c'est ce qui manque chez nous, c'est manque de patriotisme. Donc il y a autant de problèmes et je crois que pour arriver à chuter, il faut repenser la politique sociale. Et dans ce paquet de la politique sociale, il faut la corrélation entre la politique du travail, la politique sanitaire, la politique salariale, la politique du logement, des transports et ainsi de suite.
Merci Franck.
Le monsieur qui travaille à la fin du mois, il a de quoi à payer son assurance et
merci.
Peut le prendre en charge quand il sera malade. Mais sinon,
ça sera difficile. Merci beaucoup, Franck. Marie-Paul Emina, vous gardez la ligne. Emina est à Bukavu. Marie-Paul est à Kisangani. Vous gardez la ligne. 081-890-4969. On va revenir dans ce studio pour que notre invité puisse réagir. Mais vous pouvez continuer à débattre ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Paroles aux Auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous dans ce studio, professeur Gilbert Sibangou. Vous avez suivi nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on a deux choses. Il y a d'abord c'est qu'il leur appréhension, comme ça a été même d'ailleurs évoqué pendant l'introduction. Mais parce que Franck a évoqué tout à l'heure la politique sociale, et revenir maintenant sur ce que vous faites. Est-ce que c'est vous considérez que dans notre politique sociale, parce qu'il l'a dit, la question des personnes de troisième âge est tellement négligée pour qu'on puisse avoir le système de santé qui se focalise sur eux aujourd'hui comme une des priorités, comme on le voit avec les enfants, la vaccination. Et ça vous permet aussi de commenter, de placer les mots par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par les compatriotes.
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi Monsieur Héritier, Monsieur Benjamin et notre frère Franck de Vienne. Tous démontrent la défaillance de l'État. Donc l'État est responsable du mal que nous vivons aujourd'hui. Alors, Pierrot, c'est là que je vais insister sur un fait. Vous savez, 25 ans ou 22 ans de règne de l'AFDEL et ses composantes nous a amené tous les malheurs. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut laisser une université qui fonctionne sans médecin? Une université où on parle de la médecine et il n'y a pas de médecin pour donner cours, de professeur pour donner cours. Comment on peut laisser une université, enfin, la faculté de médecine qui fonctionne, sans un centre de santé où les finissants peuvent faire un stage. Ils terminent, ils n'ont jamais touché un patient comme ça pour ne fût-ce que faire une prise de sang. Ils ne savent même pas comment prélever la tension d'un malade. Donc, voilà le résultat de 22 ans du règne AFDEL et composante. Alors, est-ce qu'il faut toujours se lamenter? Non. Il faut commencer quelque chose. C'est là que j'ai dit, Monsieur Franck nous a parlé d'une politique sociale que l'on doit mettre en place. Nous, on a saisi le chef de l'État qui avait dit en son temps qu'il voulait offrir à la population la couverture sanitaire universelle. C'est vrai, le chef de l'État a manifesté la volonté. Et on s'est dit, bon, écoutez, parce qu'il a manifesté la volonté, essayons peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour matérialiser cette couverture sanitaire universelle. De manière globale, c'est beaucoup, beaucoup de peine. Mais sectoriel, on peut y arriver. C'est ce que nous avons fait, nous. En prenant comme cible les personnes du bel âge, nous avons organisé un programme de gratuité des imageries échographiques. Et ça concernait les personnes du bel âge. Pendant 39 jours, nous avons organisé ce campagne de gratuité-là. Et nous avons aujourd'hui un rapport qui donne les détails sur l'organisation, la faisabilité même et les défis à relever. C'est un rapport de plus ou moins 126 pages.
Oui, mais quel a été votre objectif en organisant cette campagne de gratuité du Magéré?
C'était une façon pour nous d'étudier la faisabilité de la couverture sanitaire universelle. C'est comme ça qu'on a mis en place ce volet-là, pour dire, écoutez, on peut faire quelque chose. Parce que quand le chef de l'État a parlé, personne n'est revenu sur ça pour lui dire, bon, voici la matière. Mais là, nous lui apportons la matière. Pour dire, vous avez parlé de la couverture sanitaire universelle, nous, on apporte la matière pour une couverture sanitaire partielle, même minime. Nous avons investi 31 752 dollars pour 39 jours. Nous avons soigné 656 patients gratuitement. Je dis bien 656 patients gratuitement.
Des 65 ans et plus.
De 65 ans et plus.
Et rappelons que c'est la catégorie d'abord la plus vulnérable. Hein,
exactement.
Qui sont beaucoup plus abandonnés.
Oui. Et c'est ça. Alors, Monsieur Pirot, quand vous prenez ce chiffre-là et vous extrapolez avec la part du budget alloué au ministère de la Santé par le gouvernement, vous trouvez que ça représente 0,04%. 0,04%. Les 31 752 là. Parce que le budget de l'État alloué au ministère de la Santé, la part allouée au ministère de la Santé par le budget, est de 726 741 510 000 dollars. Ça, c'est la part allouée au ministère de la Santé. Donc, ça représente 0,04%. C'est que nous, on a réalisé. Et nous avons soigné 656 patients. De quoi dire, écoutez, merci au chef de l'État qui a pensé offrir la couverture sanitaire à son peuple. Là, nous avons des éléments fiables pour qu'on commence tout de suite.
Alors, ça dit que si nous pouvons maintenant extrapoler sur le 726 millions de dollars du ministère de la Santé, ça dit qu'il y a moyen d'offrir les soins, on peut dire gratuitement, à un pourcentage élevé de ces personnes.
Mais, oui, mais parce que c'est l'État. Ça, c'est le moyen
individuel.
D'un individu. Nous avons eu l'aide de quelques Congolais, parce qu'on n'est pas allé à l'extérieur pour demander encore. C'est bien sûr qu'on va y aller, mais pour le moment, nous avons dit, nous avons des Congolais. On va essayer de faire avec ces Congolais. Il y a deux Congolais qui nous ont aidés, des Congolais charitables. Monsieur Cyril Mutombo, le DG de Kibali Gold Mining, qui nous soutient beaucoup, et Monsieur Feni Samuel, lui, il est en Ituri. Mais il nous a aidés parce qu'il nous a suivis. Voyez, c'est des Congolais qui ont participé beaucoup à ces campagnes de gratuité. Donc, il y a des Congolais qui peuvent encore faire plus. 31 752 dollars. Pierrot, je crois que quand vous suivez des montants qu'on détourne, c'est 50 millions.
C'est
60
énorme.
Millions.
C'est
70
énorme.
Millions de dollars. Mais
alors que, avec cet argent,
oui,
on peut arriver à offrir les soins à un grand pourcentage, non seulement de ces personnes de troisième âge, mais aussi les femmes enceintes et les autres peuvent accéder à la maternité, à tout ça, avec quelques millions.
Mais je vous dis, nous sommes en train de punir ce peuple par manque d'amour et par manque de charité pour les autres. Et pour soi-même.
Et ça dit que dans ces montants,
oui,
vous avez non seulement consulté, passé les examens d'échographie et tout ça, et offrir des soins sans que ces malades aient déboursé quelque chose.
Ils n'ont donné même pas un franc.
600 et personnes, 31 millions.
656 personnes.
Cela veut dire que si aujourd'hui Resmed de plus reçoit 1 million de dollars, si on peut extrapoler, avec 1 million de dollars, combien de gens vont avoir des soins gratuits aujourd'hui?
Oui. Ça demande la charité et la volonté. Au lieu de se lancer dans des aventures qui n'avancent pas le pays, et puis après, on va se faire soigner à l'extérieur. C'est regrettable.
Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, l'État congolais a la capacité, vu notre capacité de mobilisation des fonds, parce que les fonds existent, il y a beaucoup d'argent dans ces pays, il faut le dire.
Oui.
Ça veut dire qu'avec une bonne organisation, une bonne volonté, on peut arriver, à travers l'expertise telle que vous l'avez, à offrir des soins gratuitement à une grande partie de la population.
Toute l'étendue de la République, on peut cibler des personnes à soigner gratuitement. On ne dit pas que ces hôpitaux existent que des murs. Non, il y a encore des structure un peu viable où on peut remettre la peinture et commencer directement à soigner une catégorie de personnes.
Alors peut-être que c'est la question qui allait venir après, avant qu'on écoute les auditeurs. Est-ce que votre initiative a-t-elle été accompagnée par le pouvoir public, ça veut dire le ministère de la Santé? Est-ce que vous les avez intéressés à voir ce que vous faites pour voir comment peut-être qu'un jour ou l'autre ils peuvent vous associer dans la réflexion sur cette question des couvertures santé universelles?
Le seul accompagnement que nous avons eu de l'État jusqu'aujourd'hui, parce que ça fait une année que l'on fonctionne, le seul accompagnement que nous avons eu de l'État, c'est l'autorisation pour fonctionner. Et après, ben, ils sont ailleurs. Ils font autre chose. Mais nous continuons à travailler. On dit, bon, peut-être qu'il y a des priorités. On n'est pas prioritaire, nous. Peut-être qu'il y a d'autres priorités. Mais un moment, j'espère qu'ils vont venir. Voilà. Parce que là, le rapport va être adressé à tout le monde. Principalement au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui a eu la ferme volonté d'offrir à ce peuple la couverture sanitaire universelle.
Et faudra-t-il maintenant que tout autour des chefs de l'État qu'on ait cette expertise qui montre aux chefs de l'État, voilà, c'est possible pour y arriver, mais voilà ce qu'on peut faire. Et ce que vous faites, vous
exactement.
Avez déjà fait sur terrain.
Exactement.
Alors, il y a Éminent qui nous appelle de Bukavu et Marie-Paul qui est à Kisangani. Éminent, Mwanda, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio
Camille. On vous écoute, Éminent.
Vraiment, l'indépendance de la RDC, comme voté hier, le 30 juin 1960, presque dans tous les secteurs, il n'y a pas vraiment d'avancée considérable. Et pour ça, d'abord, le secteur de la santé dont on parle aujourd'hui, on ne trouve pas vraiment, il n'y a pas même l'accès aux soins de santé primaires. Parce que si nous prenons le cas, d'abord, récemment, si le personnel de santé était en grève, et si les personnels de santé sont maintenant en grève, nous pouvons nous attendre à quelle qualité de santé. La santé est piétinée à RDC. Et pourtant, c'est le poumon de la vie humaine. On peut pas passer au développement, on peut pas parler de la politique sans pour autant d'abord mettre beaucoup d'attention sur la santé. Je prends d'abord l'exemple de ma tante, moi, ici. Elle est décédée dans la maison. Pourquoi? Faute de moyens, parce que quand on sait, si on peut se diriger même dans une structure sanitaire, d'abord, on va demander d'abord la caution. Et cette caution-là peut être élevée forfaiteur. Et cela, ça dépend de chaque structure et chaque milieu. Et c'est pour cela que il y a des choses que le gouvernement devait d'abord mettre en tête que qu'il faut d'abord que notre gouvernement travaille là-dessus. Compter 61 années d'indépendance, c'est pas une moindre chose, soit ce n'est pas une moindre affaire, mais vraiment il faut évaluer le bilan presque dans tout le secteur. La radio Papi est en train de faire son travail à travers ses émissions. Ce qu'on est en train de faire, c'est une très bonne chose. Nous avons même les invités, vous voyez notre invité là sur le plateau. Il a parlé de la sensibilisation, des travaux d'abord, ça réalise ce qu'il a déjà réalisé sur le terrain. Mais notre gouvernement a beaucoup d'initiatives, si on peut dire. Ces initiatives, on ne sait pas si ces initiatives sont freinées à quel niveau. C'est le gouvernement qui a le monopole de tout. On peut pas attendre quelque chose à une autre personne. C'est pour cela que avec la politique des contrats sociaux, la population, soit que les individus, se sont mis d'accord et donné leur pouvoir à une personne. Et si notre gouvernement est en train de nous abandonner à notre triste sort, c'est une désolation. Et là, nous pouvons prier seulement à notre gouvernement, si certains membres sont en train de nous attendre à travers ces émissions, de regarder en bas cette population qui souffre depuis plusieurs années. 61 ans après l'indépendance, il y a même Franck de Vienne qui avait soulevé. Après les hôpitaux qui étaient construits, les hôpitaux publics construits pendant la période de la colonisation, sont là les hôpitaux qui sont encore opérationnels. À Bukavu, je ne sais pas, mais il y a des particuliers qui sont très riches que l'État. Vous pouvez voir un ministre, un agent du gouvernement qui vous construit un hôtel de 200 plus de chambres. Et l'État lui-même, n'a pas même la capacité de construire même.
Alors, mais vous avez relevé un élément important, éminent, dans votre intervention, c'est la question de la caution. Aujourd'hui, on sait dans les hôpitaux, avant que les malades soient touchés, on vous demande une caution. Il peut être d'autant, ça dépend d'une structure à l'autre. Et c'est ça le problème. Vous, désolé, que vous avez perdu votre tante dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu accéder aux soins. Partout où vous l'avez amenée, on exigeait une caution qui était élevée. Et dommage qu'elle soit décédée ainsi. Et vous voulez vraiment que l'État prenne des cas comme ça, et par exemple, les propositions comme celle de notre invité, pour pouvoir comment permettre à cette catégorie de personnes qui n'ont pas de moyens d'être soignées. Merci beaucoup, éminent, de Bukavu. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à votre invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kabi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, merci, monsieur le journaliste. 60 ans après l'accession à la souveraineté internationale de la RDC, et si il nous revient de dresser les bilans de l'accès aux soins de santé en RDC, je pense que le bilan est mitigé. Pourquoi ce bilan est mitigé? C'est de telle enseigne que la situation sanitaire en RDC évolue en dents dessus. Et il faut d'abord rappeler que, avant qu'on assiste à ces débâcles que nous avons maintenant, mais dans les années 1980, la RDC était vraiment un centre, une destination sûre de beaucoup de malades africains. Tous les pays africains envoyaient leurs malades se faire soigner en RDC. Mais lorsque nous sommes arrivés justement dans les années 90, et lorsqu'il y a eu Perestroïka, vous savez, ces vagues-là, la RDC a assisté à une chute aux enfers dans beaucoup de domaines, et notamment les domaines sanitaires avaient aussi subi ces vagues-là. Alors, de tout ce que nous constatons, nous savons que la santé n'a pas de prix. Et dans un état, comme les autres ont rappelé, la santé, c'est parmi des éléments cruciaux, c'est parmi des fondamentaux. Parce que si, dans un pays, on est en train de négliger la santé, c'est une façon de dire qu'on n'a pas besoin du développement, parce qu'on ne peut pas développer sans la santé. Et voilà pourquoi moi, à mon sens, je trouve que ce que la RDC doit faire pour améliorer cette situation, c'est justement d'investir dans les domaines sanitaires. Et il faut qu'il y ait des gros investissements, parce que c'est quand même quelque chose qui est horrible que dans un pays, 61 ans après, on est incapable même de trouver des scanners dans des hôpitaux, dans des centres de santé, et que si il est question de pouvoir voir ou se faire examiner par des scanners, on n'a pas ces matériels-là. Donc c'est quand même grave. On doit investir dans ce secteur-là et on doit construire des hôpitaux. Je pense que dans des provinces, la situation est encore chaotique. Nous avons des anciens hôpitaux hérités par la colonisation et ces hôpitaux ne sont même pas équipés. Si vous entrez, vous voyez dans quelles conditions les malades sont en train d'être logés. Ça laisse à désirer au point qu'il y a même des pillateurs. Vous sentez des mauvaises odeurs. Toutes ces conditions-là ne permettent pas aux gens de se guérir, n'est-ce pas, d'avoir quand même des bonheurs pour la guérison. Et voilà pourquoi moi je demande aussi à ces pays ici, aux gouvernants, de mettre en place une politique sanitaire. Nous insistons sur la politique là, c'est parce que si nous avons une boussole et nous avons des programmes par rapport à cela, on va pouvoir investir, on va pouvoir ériger des hôpitaux, des centres de santé dans des provinces et dans des milieux, parce que toute personne a droit quand même à se faire soigner. Au lieu que nos gouvernants se contactent au fait d'aller se faire soigner ailleurs. C'est un grand manque à gagner, parce qu'aujourd'hui, tous nos malades vont en Afrique du Sud. Et le résultat, c'est quoi? Lorsque quelqu'un va en Afrique du Sud, moins sont ceux-là qui rentrent en vie. Et beaucoup de nos politiciens, de nos personnalités qui ont des capacités de réflexion, qui ont des bonnes idées, mais en Afrique du Sud, tout ça, ils sont en train de fuir notre pays, parce qu'eux-mêmes ont détruit. On détruit les tissus ici.
Alors, et si on arrive si on vous suit... à mettre ça... Si on vous suit très bien, Marie-Paul, vous insistez sur la question de la politique sanitaire. On est revenu là-dessus. Ce qu'un autre invité a démontré, cela veut dire que si on a une bonne politique sanitaire avec des moyens qui peuvent être disponibles dans ces pays, on peut arriver à améliorer l'accès aux soins. Vous l'avez dit, hein, l'état des hôpitaux publics aujourd'hui qui laisse à désirer. Alors Gilbert, vous êtes en bande Dakar. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour Gilbert.
Oui, bonjour la radio Capi, et je salue aussi l'invité. Donc, très disais, moi, oui, moi, je dirais qu'avec un système de santé copié collé de l'Europe, et qui souffre d'ailleurs d'application, car ce système exige un certain nombre de critères, la RDC doit faire un effort pour améliorer ses concepts de soins de santé primaire, pour assurer l'accès aux soins et à couverture de santé universelle. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit mes prédécesseurs, 61 ans après, l'indépendance aujourd'hui, comme dans tous les secteurs de la vie nationale, l'accès aux soins de santé pose un sérieux problème dans notre pays. Bon, cela demande des réformes sérieuses pour relever ces défis. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux soins de santé première pour notre pays, ce n'est pas un cadeau que le gouvernement congolais doit faire à la population. Non, c'est un droit connu par même la constitution de notre pays. C'est un droit vraiment. Et comme si aujourd'hui, on veut bafouer les droits de la population. Nous sommes dans quel état vraiment? Est-ce que dans un état sérieux comme le nôtre, est-ce qu'on veut manquer vraiment les soins de santé première? C'est inacceptable, on
ne peut
pas accepter cela.
Ça dit que, Gilbert, comme vous l'avez dit, si le gouvernement considère aujourd'hui que l'accès aux soins est un droit, assez automatiquement, il faut donner ces droits à la population. Alors, Pierre, vous êtes à Goma, vous gardez la ligne, professeur. Alors, j'essaie de voir dans vos projections, vous estimez qu'on peut faire un peu plus. Alors, projetez-nous un peu dans l'avenir avec assez de moyens. Vous avez parlé d'un investissement, par exemple, sur 8 ans. Qu'est-ce que cela peut faire aujourd'hui? Si on va de ce que vous avez fait sur terrain, on prend ça à grande échelle, ça représente quoi aujourd'hui pour permettre à certaines personnes d'accéder aux soins de qualité partant de cette expérience?
Merci beaucoup, Pierrot. Mais avant d'extrapoler sur 8 ans... Les auditeurs ont soulevé des problèmes capitaux qui nécessitent beaucoup d'amour et beaucoup de vérité. Je vais vous dire une chose. Il y a un monsieur éminent. C'est Marie-Paul. Marie-Paul a parlé des équipements qui manquent partout. Partout. Pierrot, je vais vous donner un secret. Vous savez combien coûte l'appareil d'une échographie, enfin l'appareil d'échographie ordinaire, non, avec deux sondes seulement. C'est $1,500 rendu Kinshasa. $1,500. Vous pouvez faire des échographies pelviennes. Vous pouvez faire des échographies obstétricales.
$1,500 seulement.
Moi j'ai ça. J'ai ça, c'est le cadeau de DG Cyril Mutombo de Kibali Gold Mining. Nous avons l'échographie Doppler dernière génération. Nous avons ça chez nous. Vous savez combien ça coûte?
Non.
Rendu Kinshasa, tu es à moins de $18,000. Nous avons ça chez nous. Donc, c'est pour dire que nous manquons la volonté et l'amour. Un appareil de $1,500. Mais on peut mettre ça dans toutes les provinces. Si on a...
La volonté.
La volonté et un État responsable. Alors, donc, c'est pour vraiment... montrer à Monsieur Marie-Paul que nous sommes capables, l'État congolais capable de fournir des équipements modernes partout. Mais, il y a un problème. Il y a un problème. Et je pense qu'avec notre rapport, nous avons beaucoup aidé le chef de l'État à voir que nous sommes capables de réaliser des grandes choses avec peu de moyens. Alors, maintenant pour revenir aux extrapolations. Monsieur Pierrot, pour une année, nous sommes capables de recevoir 6060 patients. Rien que pour la ville de Kinshasa et une commune. Vous comprenez? 6060 patients pour Kinshasa et une commune. Parce qu'on n'est pas encore allé en province, on ne peut pas y aller, on n'a pas de moyens. Et ça va nous coûter $293,100, Pierrot. $293,100, ça c'est en une année. et nous sommes capables de soigner 6060 patients.
Patients, gratuitement.
Gratuitement.
À 290 quelque chose mille de dollars.
Voilà. Gratuitement, mais dans la ville de Kinshasa, où nous sommes, avec nos équipements et la logistique pour aller un peu partout. Nous disons, si l'État prend ses responsabilités, on peut faire le 24 communes sans problème. Avec nos équipements, on peut le faire sans problème. Parce que nous pouvons même, nous sommes capables de faire, si nous avons des équipements, on est capable de faire toutes les communes en une journée. On commence. Ça ne coûte pas des avions qu'on loue. Ça ne coûte pas des jets privés pour aller se faire soigner en Europe. Je vous assure. Aimons ce peuple qui ne demande que peu de moyens pour son bien-être. Alors, maintenant, quand vous me parlez de 8 ans, Pierrot, je vais vous donner les chiffres. En 8 ans, nous pouvons soigner... on peut soigner 293 100 cas. On peut soigner.
Des gens qui peuvent avoir accès aux soins gratuitement. Voilà. Un coût qui peut s'élever à 2 millions de dollars.
Quelque
presque
chose comme
2 millions. Alors, quand on regarde les secteurs de santé aussi, dans lesquels nous avons eu plusieurs émissions sur la gestion du secteur de santé, il y a eu même des procès, des détournements, et dans tous les autres secteurs, on parle en termes de millions, vous l'avez dit. Ce sont des millions qui disparaissent des trésors publics, alors qu'avec 2 millions de dollars seulement, qu'on reçoit des fois de l'étranger, d'une ambassade, d'un pays qui nous donne 2 millions de dollars.
Et on va, inaugurer avec la presse partout, là.
Alors que la RDC, avec 2 millions de dollars, peut donner des soins à 293 000 personnes gratuitement de troisième âge. On peut y mettre tous ces papas qui sont dans les hommes des vieillards abandonnés.
Abandonnés.
Et ça, c'est une question d'avoir la volonté, comme vous
l'avez dit. Et l'amour. Et j'insiste sur l'amour.
Voilà. Et nous allons tourner de l'autre côté du standard parce que là, il nous reste deux auditeurs, je crois bien. Il y a Pierre qui est à Goma et un dernier auditeur que nous allons avoir pour conclure cet échange, qui n'est pas le dernier, bien sûr. Pierre, vous êtes à Goma. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Pierre.
Bonjour Pierrot et la Meji, bonjour à tous les invités de la radio Capi, bonjour à l'invité.
On vous écoute Pierre.
Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat d'abord. Moi je dirais que l'accès aux soins de santé pour tous serait un défi majeur, c'est 61 ans après l'accession de la RDC à son indépendance. Les hôpitaux publics fonctionnent toujours dans des conditions précaires et dans certaines provinces, les structures sanitaires sont très éloignées de la communauté. Et dans nos villes, les infirmiers préfèrent travailler dans les hôpitaux privés, vu la façon dont nos médecins travaillent, ils souffrent avec la souffrance et certains non payés. En plus, accéder aux soins, ils nous font de l'argent, à part une minorité de personnes en possession d'assurance médicale. Un autre problème que nous avons, c'est l'état de nos routes en général et c'est là qui mène vers les structures sanitaires en particulier. Pourquoi je l'ai dit? Un jour, j'étais au village Monsieur Pierrot. Une maman enceinte est arrivée au moment de se coucher et pour arriver à l'hôpital approprié, il fallait au moins faire 40 kilomètres. Et il n'y avait pas d'autre choix que de transporter la maman sur les brancards. Et par la malchance, quelques 20 kilomètres après, la femme en question qui venait d'arriver au moment de mettre au monde est décédée suite aux difficultés qui exigeaient les docteurs. Maintenant pour citer... À mon humble avis, moi, je pense que ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur, qui d'ailleurs est dans le programme quinquennal du chef de l'État, on peut procéder à un recensement de toutes nos structures sanitaires pour savoir le fonctionnement et l'état des besoins. Et pour que ces structures fassent un rapport trimestriel au niveau national pour avoir comment ce qui manque pour mettre les moyens. Et qui ont rendu les défis qu'on peut relever pour que l'état de santé reste toujours.
Merci.
Oui. Et merci. La réalisation de nos routes qui affecte presque tous les secteurs.
Merci, merci beaucoup Pierre. Ces difficultés, vous l'avez dit, le professeur évoquait tout à l'heure qu'il y a des provinces, des coins où il faut transporter sur le dos quelqu'un pour l'amener à l'hôpital, pourquoi pas sur le vélo, les tupos et la moto, tout ça. On voit même des fois des cadavres qui sont transportés ici, collés à un motard. C'est des problèmes. Il faut considérer que c'est une priorité et c'est ça. Alors nous revenons à vous, professeur Gilbert Sibangou, parce qu'on doit conclure cet échange. Vous avez eu quand même cette expérience que vous avez fait. Vous avez des personnes qui vous prennent en charge, mais après après, ça va être quoi si vous n'avez plus de financement, s'il n'y a plus de personnes qui vous aident ou si l'État n'intervient pas. Voilà, il y a un dernier auditeur, on peut l'avoir rapidement alors, dans 45 secondes, je crois, il y a quelqu'un qui est déjà sur le standard, on peut l'avoir rapidement.
Allô?
Oui, voilà.
Oui, Pierre Lamézi, bonjour.
Oui, bonjour, c'est François, voilà, c'est François qui est avec nous. Hein. François, rapidement, hein, peut-être en 45 secondes, hein, votre intervention, François.
Ok, c'est François Kouni depuis le Mou. Vous savez, M. Pierrot, depuis notre père a connu l'indépendance en 1960 jusqu'à ce jour. Vous savez qu'en 1961, les Sud-Africains et autres étrangers limitrophes venaient se faire soigner à Kinshasa, M. Pierrot. Alors, avec les perturbations politiques qui ont amené les pays en déséquilibre sans nom, pour y remédier, il faut la volonté politique du gouvernement central. Donc, je voudrais ici interpeller le gouvernement central sous les Wario avec Samuel Kondé de prendre conscience afin de retourner la RDC à son ancienne image sur les plans sanitaires, bureau et la mairie.
Merci beaucoup. Il faut une prise de conscience. Voilà les mots-clés pour vous pour terminer. Alors, professeur, on revient à vous. Je disais tout à l'heure, est-ce que vous allez arrêter? Ces personnes vont être abandonnées. Si vous n'avez pas encore de moyens, si ces mêmes personnes vont continuer à vous soutenir. Et alors, et ça permet aussi de pouvoir conclure cet échange et l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui à tout le monde pour avoir une couverture santé universelle comme souhaité par le chef de l'État.
On ne peut pas abandonner. Et je n'abandonne jamais. Je vais jusqu'au bout. C'est vrai, il y a des défis. On va améliorer. Mm-hmm. On va les affronter pour améliorer. Et c'est ici l'occasion pour dire, nous avons fait preuve de beaucoup de détermination, d'amour, d'abnégation. Et on a besoin qu'on nous soutienne. Ça peut être toi, Pierrot. Ça peut être quelqu'un d'autre. Nous avons sorti notre rapport, et comme tu le vois là, c'est en DVD vidéo et en fascicule. Nous allons remettre à plusieurs personnes, espérant qu'ils vont vraiment répondre positivement. Pierrot, il faut qu'on insiste sur le fait palpable. Nous sommes capables de soigner plus ou moins 2 millions de personnes âgées avec le maigre moyen. Nous sommes capables. Parce que le 2 millions là, je ne dis pas que c'est seulement Kinshasa, non. Le gouvernement va maintenant voir quelles sont les provinces où on peut déjà commencer quelque chose avec les infrastructures sanitaires qui existent. Quand vous allez à Kisangani, c'est vrai que l'hôpital général est à l'abandon. Mais on peut améliorer quelques salles pour ne plus que commencer à soigner le peuple. Pire aussi, on doit attendre qu'on construise des hôpitaux comme cinquantenaire dans tous les pays. Ça va être tout un mandat qui termine à construire et on n'aura jamais soigné des malades.
C'est-à-dire que partant des structures qui existent, si on a cette vision, on peut améliorer, commencer à soigner avec les moyens que nous avons.
Exactement. Ça ne demande pas qu'on importe la peinture. On a la peinture, on a des prises, on remet un peu des courants, on met la peinture, on arrange des toilettes et on commence quelque chose pendant qu'on réalise des grandes choses. Hein? Donc moi je suis vraiment pragmatique et je me dis nous sommes capables de commencer quelque chose. N'attendons pas que la Banque mondiale vienne nous montrer comment soigner ou comment faire les échographies pour des personnes âgées ou bien pour une femme enceinte. Mais ça n'a pas de sens. Cet appareil coûte $1,500, l'appareil ordinaire, et plus ou moins $18,000 le Doppler dernière génération.
Nous on peut en avoir beaucoup dans ces pays.
Mais parce que nous en avons chez nous.
Merci. Ouais. Merci beaucoup, professeur Gilbert Sibangou, directeur général et initiateur de ResMed Plus, une structure qui s'occupe des personnes de bel âge, comme vous le dites. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci aux auditeurs qui ont été nombreux à contribuer. Le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Sylvain Matundu qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Kiria Ambatia. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, je vous retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur www.radioocapi.net. Merci et au revoir.